Il reste ce que j'appelle, moi, un ami secret, c'est-à-dire ce terme que Pétrarque utilisait pour parler des auteurs classiques, latins et grecs, c'est-à-dire des auteurs qui, par leur justesse, parfois leur volonté, par la richesse de leur œuvre, évidemment, ont des vertus éclairantes, sont ces alliés substantiels dont parlait René Char. Donc voilà, il continue d'être ça, avec un amour de la nature qui est aussi quelque chose que moi j'ai appris à vivre, à ressentir avec le temps.
Son journal a été mon compagnon de promenade pendant des années, il y a presque 30 ans, et, tous les jours, dans les bois.
Une œuvre. Henri David Thoreau, 1817-1862.
Comme on est seul pour vivre. Nous habitons le rivage et il n'y a personne entre la mer et nous. Les hommes sont mes joyeux camarades, mes compagnons de pèlerinage qui charment le chemin, mais qui m'abandonneront au premier tournant de la route, car il y a une route sur laquelle personne n'ira aussi loin que moi.
Henri David Thoreau, L'homme qui marchait à la lisière du monde, par Françoise Estève et Nathalie Triandafilidès.
Thoreau, c'est quelqu'un qui fait penser, qui provoque à penser. Je crois que c'est pour moi la chose la plus importante. Non pas qu'il faille l'imiter, non pas qu'il faille le transformer en un gourou, mais c'est une sorte d'écrivain qui propose une façon de réfléchir et de tout soumettre au crible de son jugement, ne rien accepter, ne pas s'engager dans les ornières de la pensée et penser autrement, quoi. Penser ailleurs. Dans un livre, j'avais parlé de son excentricité. Il est allé s'installer à Walden, donc dans les bois, au bord d'un lac, près du village de ses parents. Et c'est significatif qu'il est allé vivre hors du centre. Et c'est vraiment l'excentricité réalisée dans une mise en scène et qu'il utilise pendant un certain temps de sa vie pour expérimenter.
Inclassable et irréductible Thoreau. En dépit de ses paradoxes et de ses multiples facettes, la vie de l'extravagant Henri David Thoreau apparaît rigoureuse et cohérente. Ce grand marcheur est ému par une curiosité scientifique, naturaliste, botaniste, ethnologue à ses heures, écologiste avant la lettre, mais aussi rêveur vagabond, mystique sans religion. En marge des préoccupations matérielles de son temps, objecteur de conscience, Thoreau fut aussi un homme engagé, dont se réclamèrent Tolstoï, Gandhi, Martin Luther King. Thoreau a écrit des récits de voyage, compte rendu de ses expéditions extrêmes dans les forêts du Maine et au Cap Cod. Il a raconté son expérience de vie dans sa cabane des bois de Walden. Il est l'auteur d'essais et bien entendu du pamphlet politique « La désobéissance civile ». Tout au long de son existence, chemin faisant, il a rédigé un journal qui comptait plus de 30 cahiers à sa mort, œuvre gigantesque dont seuls quelques fragments sont publiés en français. Thoreau fut formé par Emerson et fréquenta un temps les transcendantalistes de sa ville de Concorde, ces philosophes non conformistes, ces réformateurs idéalistes, pour la plupart d'anciens pasteurs, chercheurs extravagants de la vérité qui voulaient atteindre la conscience première d'avant toute institution humaine et renouveler l'âme des hommes par le contact avec la nature. Ce fut là son terreau intellectuel. Mais Thoreau était trop individualiste pour appartenir à un groupe. Il avait d'ailleurs peu de sympathie pour l'homme. Il se créa son propre mode de vie, selon l'éthique de la pauvreté volontaire. Mais la voix de cet homme secret nous parvient aujourd'hui avec plus de force que jamais, car sa clairvoyance fut grande. Lui qui voulait préserver l'âme du monde mettait les hommes en garde contre les désastres écologiques et humains à venir. Écoutons la voix de cette conscience à la lumière obscure de notre époque.
Toutes les feuilles et tous les rameaux étaient ce matin recouverts d'une étincelante armure de givre. Même les herbes dans les champs découverts portaient d'innombrables pendants de diamants qui tintaient joyeusement quand le pied du promeneur les effleurait. C'était, à la lettre, un naufrage de bijoux, une débâcle de joyaux. On eût cru qu'une des assises supérieures de la terre avait été enlevée pendant la nuit, exposant au jour une couche de cristaux sans tache. Le spectacle changeait à tous les pas ou selon que la tête s'inclinait à droite ou à gauche. L'opale, le saphir, l'émeraude, le jaspe, le béryl, la topaze, le rubis étaient là. Telle est la beauté toujours. Non pas ici ni là, maintenant ni alors, non pas à Rome ni à Athènes, mais partout où il y a une âme pour admirer. Si je la cherche ailleurs parce que je ne la trouve pas chez moi, ma recherche restera stérile.
Vous êtes en résonance profonde avec Henri-David Soreau, Marc Blanchet. Vous êtes parti sur ces traces dans le Massachusetts. Vous avez préfacé l'ouvrage de Soreau, Les forêts du Maine. Il s'agit de trois essais qui ont été regroupés en un volume aux éditions Corti, où il relate ces trois voyages, on pourrait dire ces trois expéditions, parce qu'elles se sont vraiment effectuées dans des conditions extrêmes, en 1846, 1853 et 1857, dans les profondeurs sauvages de l'état du Maine. Alors, est-ce que vous seriez d'accord, vous qui êtes écrivain, photographe, voyageur, pour donner une définition de Soreau, une première définition, Soreau comme un marcheur. Pour moi, il m'évoque un peu l'homme qui marche, de Giacometti, solitaire et obstiné. Est-ce que ça vous va comme définition, Marc Blanchet ?
Ça conviendrait, je crois, d'une certaine manière, ça serait la meilleure manière de le saluer aujourd'hui. Un homme qui marche et d'une certaine manière qui écrit autant qu'il marche, mais pour qu'il y ait écriture, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit enregistré de l'ordre d'une expérience, d'une manière d'être au monde, et ça passe par la marche. Et vous parliez de terme d'obstiné, je pense aussi que c'est très important, c'est-à-dire que dans cette marche, c'est pas qu'il y a un épuisement, mais il y a une sorte de continuité, presque une continuité excessive qui va le définir au cours des années, jusqu'à temps qu'on ait cette image aujourd'hui de sorte de marcheur continu, qui semble à mon avis très juste, et qui montre aussi cette façon de parcourir cette partie des États-Unis où il vit, la Nouvelle-Angleterre, hein, de New York à la Nouvelle-Angleterre, sur cette manière un peu continue comme ça d'avancer avec quelques autres moyens de locomotion. Mais même quand il y a d'autres moyens de locomotion, je pense aux bateaux qu'il emprunte dans le Maine ou les systèmes qu'il y a recours pour se déplacer un peu plus rapidement, il y a toujours cette manière comme ça d'avancer avec cette participation physique au monde.
Dans son journal, Soreau déclare qu'il marche, enfin, de façon quotidienne, 4 heures à peu près, en dehors de ses fameuses expéditions. Mais alors, de quelle nature est la marche de Soreau ? Dans quel état d'esprit est-il ?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait faire presque un parallèle entre son écriture et sa marche, les caractéristiques de chacune. C'est-à-dire que la marche, pour lui, n'est pas une marche raisonnée. On est certes dans la balade, mais on n'est pas dans la randonnée. On n'est pas dans cette sorte de définition territoriale et d'une certaine manière nominale de la marche qui existe aujourd'hui, avec une sorte de parcours imposé et aussi avec aussi l'illusion que l'on découvre quelque chose quand déjà tout est balisé. Donc, je pense que son écriture participe de la même manière, puisque ce journal qu'il écrit au cours des ans, il ne le reprend pas. C'est donc un journal avec ses répétitions, ses maladresses, ses errements. Et donc, sa marche est pareille. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il va dans des endroits où il rebrousse le chemin, où il s'aperçoit qu'il piétine, où il s'aperçoit que sa marche n'est pas satisfaisante pour la journée, peut-être pas inspiratrice. Mais en tout cas, il y a toujours cette manière de vivre les deux en même temps, c'est-à-dire d'écrire comme il marche et inversement. Et donc, quelque chose se construit sans cesse, de manière continue, dans ce lien, cette interactivité entre la marche et l'écriture.
Après avoir roulé, rampé à quatre pattes, enfoncé, rebondi et marché tour à tour pour traverser cette région accidentée, j'atteignis un flanc de colline, de montagne, plus exactement, où des rochers gris et silencieux, formaient les seuls troupeaux à pâturer et ruminer leur ventrée de cailloux dans le crépuscule. Et il me regardait d'un œil gris et sévère, sans mugir ni bêler, ce qui m'amena sur la frange d'un nuage et borna ce soir-là ma randonnée. Mais au moment où je fis demi-tour, cette région du Maine, j'avais eu le temps de la voir, qui coulait, ondoyait et se ridait en contrebas.
Henri David Thoreau se tient toujours à la frontière.
Oui.
Il est sur le seuil quand il est dans sa cabane. Il a tout de même défriché un tout petit peu les alentours. Et puis au-delà, il y a le monde sauvage ou l'ailleurs, que ce soit le train, peu importe. Quand il va au Cap Cod, c'est la même chose. Il est sur le rivage. Il est toujours, il y a cette idée de la frontière qui peut être aussi une frontière intérieure, d'ailleurs.
Oui. D'ailleurs, il utilise ce terme, ça c'est typique de son mode de fonctionnement. Il utilise le mot frontière, qui est un mot de l'époque, même s'il n'est pas allé sur la frontière. Et il le transforme. La frontière, c'est le lieu où on fait front.
Michel Granger.
C'est le lieu où on affronte. Alors quoi ? Je sais pas, c'est l'autre, c'est l'altérité, c'est autre chose. Et il se situe donc volontiers sur une frontière. J'utilise assez souvent le mot de lisière, parce qu'on a le mot lisière de la forêt. Donc il est entre deux mondes. Il sait qu'il n'appartient pas au monde de la nature sauvage. Il n'y fait que des incursions. Mais pour lui, ces incursions, c'est ce qui permet de se régénérer et ce qui permet, en somme, de réformer la société. Au lieu qu'elle soit simplement urbaine, industrielle, trop civilisée, elle va pouvoir, grâce à ces incursions, garder le contact avec la nature. Souvent, il utilise le mot « se naturaliser ». Cette vie à la lisière, c'est ce qui permet de ne pas perdre le contact.
Il y a une forme un petit peu paradoxale d'attention au monde chez Thoreau. D'une part, il y a le botaniste, le naturaliste, celui qui marche en observant la nature, fait des commentaires extrêmement précis, qui classe les animaux, la faune, la flore. Et en même temps, il nous dit qu'il est dans une forme d'attention un peu flottante, qu'il faut que ses yeux errent. Et c'est là le rêveur qui prend le dessus. Alors, il est quoi ? Scientifique, rationnel, rêveur, mystique aussi ?
Je crois que ce qui est intéressant avec Thoreau,
Marc Blanchet,
c'est qu'il est aussi profondément humain. C'est-à-dire qu'en ceci, il nous ressemble ou on lui ressemble. C'est-à-dire que sa marche va être une partie éveillée et une partie flottante, comme vous dites. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, il est un voyageur avec quelque chose un peu de l'ordre du vagabondage. C'est-à-dire qu'il se laisse aller au cours de la marche. Et là, à partir de ce moment-là, la pensée est plus ou moins active et plus ou moins consciente. Et puis, en même temps, il y a une curiosité, quelque chose d'insatiable chez Henri David Thoreau, qui fait qu'il a besoin de noter, parce que je pense aussi qu'il mesure à quel point ce qu'il découvre à travers ses marches, que ce soit les dialectes indiens, que ce soit les arbres, la faune, la flore, ceci va subir une métamorphose. Il y a une curiosité peut-être héritée aussi du 18e, hein, c'est-à-dire révéler tout ce qui constitue finalement l'émerveillement, comme si on avait aussi à nouveau une dualité, c'est-à-dire d'un côté ce bien-être de la marche, la méditation, cette sorte de méditation active à travers la marche, et puis en même temps de voir que ça c'est un support, il y a une nourriture dans tout ça, il y a des matériaux, et ça s'appelle des oiseaux, ça s'appelle des arbres, ça s'appelle des fleurs, ça s'appelle des plantes, qui en plus non seulement peuvent avoir un nom, voire un nom latin, mais en plus peuvent avoir des propriétés. Et je pense qu'à ce moment-là, Thoreau fait un travail de relevé de terrain.
Nous n'avons pas encore trouvé de sonnet ardent et tendre à la gloire du blasphème qui éclate dans l'air tranquille de la nuit, tel peut-être un rauque croassement d'oiseaux. Les herbes malsaines et les eaux stagnantes ont leurs amants, et ceux qui profèrent des jurons devraient avoir des lèvres de miel et d'une certaine manière ressembler à l'abeille attique, car seuls l'harmonie et la beauté essentielles, suprêmes, peuvent user des lois du son et de la lumière. Ne serait-ce pas délicieux de rester plongé jusqu'au cou dans un marais solitaire pendant tout un jour d'été, embaumé par les fleurs du myrica et de l'érelle, bercé par ces ménestrels que sont le moucheron et le moustique? Disons 12 heures de conversation familière avec la grenouille tachetée. Le soleil se lèverait derrière l'aune et le cornouiller gravirait allègrement les 3 largeurs de main qui le séparent de son méridien et irait enfin se coucher derrière quelques tertres hardis à l'occident. Entendre dans 1000 chapelles vertes le moustique chanter son chant du soir et le butor se mettre à mugir dans son fortin caché comme le canon du soleil couchant. Certes, autant vaut tout un jour s'imbiber des sucs du marais que cheminer à sec sur le sable. Le froid et l'humide ne sont-ils pas des expériences aussi précieuses que le chaud et le sec? De même, l'ombre ne vaut-elle pas le soleil, la nuit, le jour? Pourquoi serions-nous toujours aigle ou caille, jamais hibou ni engoulevent?
Et le courage de Thoreau, Guillaume Villeneuve, c'est de mettre sa vie en adéquation avec sa philosophie. C'est ça son plus grand courage.
Absolument, c'est-à-dire de quitter, de faire sécession pour commencer avec un système social et économique qu'il réprouve, prouver que l'on peut vivre en autarcie, en disant adieu, comme l'ont fait les pères du désert, à un système donc... d'oppression, de mensonges, trouver sa subsistance, enfin la faire pousser, vivre éventuellement de cueillette, et arriver aussi à avoir une autonomie intellectuelle et morale.
C'est quelqu'un pour vous, Michel Granger, qui met en scène sa vie.
Oui. Oui, c'est l'idée de mettre en scène. Donc, une vie pas très intéressante, pas grand-chose qui se soit passé, à la